Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Réel pour chacun de nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies. Rien ne nous appartient, mais tout est à toi, Seigneur. Nous ne pouvons nous vanter de posséder quoi que ce soit, car rien n'est à nous. Et nus, nous sommes venus dans le monde, et nus, nous quitterons ce monde. Ces vies t'appartiennent même. Nos biens sont à toi, Seigneur. Notre temps, tout est à toi. Tu nous appelles seulement à être des gérants. Père, nous ne sommes pas capables de gérer nos vies, notre temps, notre argent, nos biens. Nous ne sommes pas capables de comprendre, car nous voyons qu'un jour à la fois. Mais Seigneur, toi tu vois plus loin, demain, après-demain, les années qui suivent. C'est pour cela, Seigneur, lorsque nous livrons tout à toi, lorsque nous donnons entièrement à toi, notre vie, nos biens, tout, Seigneur, à ce moment-là, tu vas nous conduire selon un divin plan, un plan d'éternité, un plan à long terme que tu connais, que nous connaissons pas, et nous marchons par la foi, et nous verrons que l'investissement de notre temps, de notre vie, de nos biens rapporteront au centuple. Je te donne mon temps, je te donne ma vie, je te donne mes années, je te donne mon cœur, je te donne tout ce qui est en moi, à moi, autour de moi. Je te le donne, oh Dieu, prends-le. Bien souvent, j'ai peu à t'offrir, j'ai peu à te donner, sinon un cœur qui est essouillé par le péché, sinon la vanité. Seigneur, qu'ai-je donc à te donner, Seigneur? Et pourtant, tu es tout content quand je te donne le peu que je possède. Et c'est toi qui vas le purifier, le modeler. C'est toi qui vas faire de cela, Seigneur, quelque chose, un vase d'honneur qui sera dans ton temple. Père céleste, devant toi, nous venons encore humiliés, oui Seigneur, non pas avec la tête levée, mais avec la tête baissée. Car Seigneur, nous pleurons, oui Seigneur, à cause de nos péchés, à cause du malheur, à cause de tout ce qui se passe autour de nous, à cause du manque d'harmonie, à cause du désordre. Père, nous pleurons. Que pouvons-nous faire? Nous venons avec toi, devant toi, avec émotion. Ce matin, je le sens profondément en moi. Père céleste, sois apaisé envers nous qui sommes des pécheurs. Donne-nous ta grâce, ô Dieu. Ce n'est que toi qui peux intervenir. Donne-nous ta grâce, ô Dieu. Et donne-nous d'être ce que nous devons être, afin de gagner le plus grand nombre. Oui, le plus grand nombre. Seigneur Jésus, parle-nous maintenant. Nous allons lire de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 20 à 22. Verset 20 à 22. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera punissable du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca », c'est-à-dire « Vaut rien », sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la gêne et du feu. » Écoutez, mes frères, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, et que nous lisons, et que nous essayons de comprendre ce que le Seigneur veut enseigner, de ses paroles, nous frémissons en nous-mêmes devant la sévérité de cette parole. Hier, alors que je prêchais l'évangile là-bas à l'école biblique, lors de l'occasion de la remise des diplômes, j'étais saisi moi-même dans mon cœur par certaines paroles que Jésus même a prononcées, et du sérieux, et même de la dureté en Jésus, de la dureté qu'il manifeste dans certaines de ses déclarations. Il a voulu que ses disciples comprennent le sérieux le sérieux de la vie dans laquelle ils étaient engagés, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question légère. Ce n'est pas une chose que l'on traite avec légèreté et plaisanterie. Ce n'est pas quelque chose que l'on adopte comme cela sans réfléchir. Il a choqué bien des fois ses disciples, car il a voulu les amener à la réflexion. Pensez donc, il a parlé d'haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie. Que celui qui ne le fait pas ainsi n'est pas digne du royaume des cieux. Mais dis donc, c'est choquant ça. Eh bien, il a voulu choquer, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux passe avant tout. Et c'est ça qu'il veut faire comprendre. Il ne parle pas de haine comme on a dans le monde pour détruire les autres. Non! Mais il parle d'aimer moins et de tout mettre, la priorité, l'affection, tout dans les choses du royaume des cieux. Bien des fois, Jésus, dans ses paroles, il a voulu choquer. Et il a très bien fait. Nous sommes lents à comprendre et il nous faut un choc pour revenir à la réalité. Bercés que nous sommes par nos illusions. Oh, je suis sauvé, c'est magnifique. Dieu est merveilleux, il guérit les malades. Dieu est merveilleux, il va nous donner l'abondance. Dieu est merveilleux, oh, gloire au Seigneur. Depuis que je venais à Jésus, comme ça, tout sera formidable. Bien sûr, tout est formidable. Mais c'est une entreprise sérieuse. C'est une entreprise sérieuse qui n'est pas pour les lâches ni les faibles. C'est pour cela que quand vous êtes lâche et faible, il veut vous fortifier et faire de vous des hommes forts. Car le royaume des cieux sont pour les hommes forts. Les hommes forts passent dans le monde, mais qu'il rend fort lorsqu'ils viennent à lui et qu'ils se donnent à lui, esprit, âme et corps. La dernière fois, vous savez que nous suivons les 10 commandements les uns après les autres. Et la dernière fois, nous avons parlé sur le 6e commandement et nous n'avons pas terminé à ce qu'il faut dire sur ce 6e commandement. Tu ne commettras point de meurtre. Nous avons parlé largement là-dessus et pourtant il y a encore des choses à dire. Quand nous sommes dans un monde déséquilibré, un monde où la vie est devenue tellement bon marché, un monde où le respect du prochain est tellement rien du tout, un monde où on se permet de détruire son prochain par tous les moyens, que ce soit par la langue, que ce soit par les armes, que ce soit par ceci, par cela, pour des intérêts personnels, des intérêts à soi, des intérêts d'un groupe, des intérêts d'une nation, des intérêts de ne sais pas quoi. On détruit. Et nous connaissons trop cela. Nous sommes dans le malheur, nous souffrons. Et nous ne voyons pas d'issue, car tout le monde s'entête, et tout le monde s'entête encore. Et tout le monde veut défendre son orgueil, et ne veut ne pas perdre la face. Un cycle, nous sommes engagés dans un cycle duquel nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir. Qu'allons-nous faire donc? Et pourtant, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux et que Dieu prépare la réponse. Et il y a un Dieu dans les cieux qui n'est pas indifférent. Mais ce Dieu dans les cieux, il a donné des commandements et des lois. Dieu dans les cieux, il a donné des principes dans lesquels nous devons marcher, une ligne de conduite, une marche à suivre, ce Dieu-là. Et il dit bien que quand vous vous éloignez, vous portez les conséquences. Car je n'oblige personne, je ne suis pas un dictateur, voilà mon chemin, voilà ma loi. Si vous y marchez, vous vivrez. Mais si vous n'y marchez pas, vous subirez les conséquences. Bon, vous ne voulez pas y marcher, bon ça va, subissez les conséquences. Qu'ai-je à voir? Je me retire. Faites comme vous le désirez. Nous vivons dans le temps de la grâce, ne l'oublions pas. Et souvent le méchant s'imagine que, après tout, c'est lui qui gagne. Hein? Il a bien raison d'être méchant puisqu'il gagne. Alors, la punition ne vient pas. On parle de Dieu qui punit et tout ça, on parle du jugement éternel de l'enfer. Oui, mais ça, on verra bien, on n'est même pas sûr. En attendant, je gagne. Tu gagnes pendant combien de temps? Tu opprimes pendant combien de temps? Tu tues pendant combien de temps? Ah, la vie de l'homme est très courte. La vie de l'homme est très courte et le jour du jugement arrive. Qui que ce soit, le jour du jugement arrive. Frères et sœurs, ne soyons pas des insensés. J'aimerais ajouter encore à cette parole du 6e commandement, tu ne tueras point. Vous avez entendu qu'il a été dit. C'est Jésus qui dit ça. Aux anciens. Est-ce que Jésus veut jeter le doute sur ce que les anciens ont dit? Les anciens, parce qu'il y a aussi la loi de Moïse. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui est passible, qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, nous devons comprendre que les Israélites, durant leur captivité à Babylone, pendant 70 ans, ils étaient là, leurs enfants ont grandi là à Babylone, ils ont perdu l'usage de la langue hébreu. Et à leur retour de captivité, et du temps de Jésus également, tous parlent l'araméen. Donc l'hébreu n'est plus la langue commune de tous les jours. L'araméen est devenu la langue que tous employaient. Et Jésus l'a employé largement lorsqu'il était avec son peuple. Les Hébreux, à ce moment-là, n'étaient plus familiarisés avec l'hébreu, de sorte qu'ils ne pouvaient lire la loi de Moïse dans le texte original hébreu. Et que cette loi leur était expliquée par les scribes et les pharisiens. Ils dépendaient pour cela des enseignements donnés par les pharisiens et les scribes. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis, ce que ces gens croyaient être la loi n'était pas la loi, mais une représentation donnée par les pharisiens et les scribes. Disons qu'il y avait la loi plus, la loi de Moïse plus. Une interprétation qui venait des hommes. Cette loi de Moïse, que nous connaissons et qui se trouve dans l'Ancien Testament, était tellement enrobée de traditions, d'interprétations de toutes sortes, de tendances variées, ajoutées à travers les siècles. Il fallait donc que les gens reçoivent la lumière de la vraie parole authentique, de la réalité, de la pensée de Dieu, de la lumière. Il fallait qu'ils sachent ce que dit la loi. Les hommes y ont ajouté leur propre interprétation. Voilà la tragédie que Jésus a trouvée. Si bien qu'on ne discernait plus l'un de l'autre. L'interprétation et la loi elle-même étaient devenues comme une seule chose. Et les gens ne comprenaient plus ne lisant pas le texte dans l'hébreu original, tel qu'il avait été donné et que les anciens, les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi connaissaient très bien, mais le peuple ne connaissant pas ce qu'eux connaissaient, n'avait que ce qui était transmis par les docteurs de la loi, les docteurs en théologie, autrement dit, les scribes et les pharisiens. Or, cet enseignement avait été faussé. Frères et sœurs, il en est de même aujourd'hui. Revenez à la Bible. Ne vous contentez pas de savoir de ce que tel théologien dit, tel autre dit, tel commentaire dit. C'est bien de le lire, oui. Il faut savoir, pourquoi pas. Mais la base n'est pas changée et nous l'avons dans nos propres langues. Et même nous avons combien de versions? Nous pouvons comparer les versions. Et si nous sommes forts en grec, nous pouvons apprendre le grec et l'hébreu. Pourquoi pas? Pour ceux qui veulent le savoir, je me souviens de frères que j'ai rencontrés une fois. Eh bien, il avait appris l'hébreu dans le texte original. En tout cas, il y a des gens qui ont un cerveau particulier et c'est formidable. Moi, je ne l'ai pas. Je suis tout à fait ordinaire. Mais ce gars-là, il avait appris dans le texte original. Alors il me l'ouvrait la Bible hébreu, il m'expliquait, voilà exactement le sens. Bon, dans la Bible, c'est bien traduit, mais il y a une force plus accentuée là, par ceci, par cela. Oh, mais c'est formidable! Mais vous êtes intelligent, apprenez le grec et l'hébreu, mes frères, dans le texte original. Merci au Seigneur pour ceux qui peuvent le faire. Mais enfin, un petit prédicateur comme moi n'en a pas là encore. Un jour, je le parlerai, et je parlerai des langues encore plus belles. Oh, le Seigneur est bon, frères et sœurs. Mais voilà la tragédie qui se passait à ce moment-là. Ils n'avaient que ce que leur transmettaient ces hommes qui avaient d'autres motivations, ces hommes qui annulaient la parole de Dieu, ou du moins qui la diminuaient. Ils étaient coupables d'amoindrir, de diminuer la signification et les exigences de la loi. Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tue mérite d'être puni par les juges. » Ce commandement est parmi les 10 commandements, il est le 6e. Mais on y a ajouté, pour la loi, il n'y a rien à dire. Tu ne commettras point de meurtre, c'est juste. Mais ils ont ajouté quelque chose qui transforme la signification du commandement. Celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Ça, ce n'est pas dans la loi de Moïse. Il mérite. Il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas alors. Il y a donc une différence. Mériter, c'est une menace, ce n'est pas un fait. Quelqu'un mérite à cause de quelque chose qu'il a fait, mais ça ne veut pas dire qu'il reçoit toujours ce qu'il a mérité. Est puni par les juges. Les juges vont délibérer. Certains vont acquitter, d'autres ne vont pas acquitter. Mais il est écrit dans Nombre, chapitre 35, verset 30 à 31, « Si un homme tue quelqu'un, là c'est clair, si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier. Si sur la déposition de témoins, un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort, vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon, point de caution, comme on dit aujourd'hui. Aux États-Unis, on dépose une grosse somme d'argent, $1 million même, pourquoi pas, hein, pour que la personne puisse sortir. Non! Dans la Bible, on a constaté, il y a des témoins, il a été un meurtrier, il a tué. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Si on n'a pas la preuve, s'il y a des doutes, ah, d'accord. Maintenant, il s'agit de creuser l'affaire. Il s'agit de creuser l'affaire. Peut-être qu'on ne trouvera pas. Alors, abstiens-toi. Laisse-le vivre et le jugement de Dieu sera sur lui. Mais tu as la preuve. Que reste-t-il? C'est ce que la Bible dit. En mettant après le commandement, celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Ils ont réduit la portée du commandement et ils l'ont affaibli. Ils ont aussi réduit la sanction. Quand ils disent puni par les juges, il s'agit d'un jugement porté par la cour locale qui peut changer suivant une cour ou l'autre, qui peut changer suivant l'habilité des avocats. Il y a des avocats qui sont très forts pour défendre les causes indéfendables. Qui sont très forts pour défendre les causes de ceux qui les payent en retour largement. Il y en a partout à travers le monde de ceux-ci. J'espère que nous n'avons pas de tels avocats dans l'Église. Car l'avocat aura à rendre compte de son plaidoyer devant le juge de l'univers. Ils disent, ne commettez pas de meurtre. Car si vous le faites, vous êtes en danger d'être puni par les magistrats. Mais mes frères, Jésus le dit bien, il y a 1000 façons de commettre un meurtre. Le meurtre, il l'avait réduit à une affaire légale, à une façon seule de commettre un meurtre, de tuer et de verser le sang. Mais Jésus a fait voir qu'il y avait bien plus dans le meurtre que de verser le sang de son prochain. Ils avaient tout ramené à une question de meurtre, ignorant le jugement de Dieu. Autrement dit, canaliser la pensée de Dieu. Autrement dit, une religion appliquée de façon mécanique. Le règlement dit ceci, je remplis le règlement. J'ai donc fait le règlement, tout est bien. Ces hommes se sentaient sans problème, pour autant qu'ils n'étaient pas coupables de meurtre. C'est-à-dire de verser le sang du prochain. Pour eux, c'était une affaire purement légale. Si le sang n'est pas versé, pas de problème. Tout est bien, la loi est respectée. Jésus dit non, il n'en est pas ainsi. Jésus dit que l'interprétation est un travesti, un déguisement de la réalité et de la pensée de Dieu. Ils ont tordu, travesti l'interprétation du message de la loi qui avait été donnée par Moïse. Ils l'ont affaibli. Ce n'est pas la loi de Dieu. Non. Elle est tellement confinée, elle est tellement réduite, ce n'est plus sa loi. Ce n'est pas sa pensée. Il y a déformation. Et combien de fois nous voyons qu'aujourd'hui, nous nous amusons à déformer la parole de Dieu par notre sagesse, par notre élucubration, par nos soi-disant recherches, par toutes sortes d'argumentations qu'on appelle scientifiques pour nier la parole de Dieu. Combien de fois on a voulu nier la parole de Dieu de façon scientifique, entre guillemets. Regardez dans le siècle passé, tous les érudits qui ont voulu vous prouver que la Bible disait ce qu'elle disait était faux. Tous ces érudits qui ont dit que tous ces noms géographiques et d'individus dans la Bible, on les trouve nulle part. Mais dès l'instant où on a creusé quelque peu le sol dans les anciens lieux géographiques de ces villes de l'Antiquité, on a trouvé des librairies entières sur des tablettes d'argile, sur une écriture qu'on appelle l'écriture cunéiforme, ou les hiéroglyphes d'Égypte. Des savants ont réussi à découvrir la signification de ces écritures à travers une stèle qu'on a trouvée où le même texte était écrit en plusieurs écritures dont l'un était en grec ancien. Et c'est ainsi qu'on a pu déchiffrer la signification et les signes de ces écritures. Voilà ce que fait Dieu. Et dans ces écrits, on a découvert les noms qui se trouvent dans la Bible. On a découvert les lieux géographiques et même les événements dont la Bible a parlé. Car la Bible a dit vrai. Qui sommes-nous de vouloir changer ce que nous annonce la parole de Dieu? Qui de nous a le droit de transformer la pensée de Dieu? Paul, à sa conversion, pensait qu'il avait gardé parfaitement la loi. Paul était un propre juste, il était un pharisien, il persécutait les autres qui ne pensaient pas comme lui, intolérant en plus. Il a mis à mort Étienne, le premier des martyrs. Le jeune homme riche, lui, pensait aussi qu'il obéissait à la loi. Pourquoi donc? Parce qu'ils avaient reçu une fausse interprétation de la loi. Toi, prédicateur de l'Évangile, qui que tu sois, que tu prêches dans ton église, dans ton local, que tu prêches à la télévision ou à la radio, que tu prêches des campagnes à travers le monde d'évangélisation ou autre, sache que tu es responsable de ce que tu dis, car tu influences la vie des autres. Quel malheur si tu les influences dans le mal! Quel malheur si tu les influences dans l'incrédulité! Quel malheur si tu interprètes mal les Écritures! Quel malheur pour toi si ta prédication ne représente pas la pensée de Dieu et la pensée de Jésus-Christ! Il te demandera des comptes pour ceux que tu as conduits sur des mauvaises voies. Seigneur, aide-moi, je suis un prédicateur. La responsabilité est trop grande, Seigneur. Tu m'as appelé et je me pose encore la question, pourquoi m'as-tu appelé? Je ne suis pas plus intelligent et plus sage, Seigneur. Et je tremble devant la responsabilité qui est la mienne, car je sais qu'un jour c'est à moi que tu demanderas des comptes pour ces gens qui se tiennent devant moi et auxquels j'ai prêché année après année. Père céleste, je ne puis le faire sans ton secours et ton aide. Seigneur, je sais que je faillis bien des fois dans l'interprétation, peut-être dans la façon de dire ou de faire, Seigneur, mais dans mon cœur, oh Dieu, j'essaye et je désire le faire le plus honnêtement possible, afin que ta lumière pénètre dans le cœur. Et je ne leur dis pas de croire ce que je dis, mais de croire ce que ta parole dit, et de juger par ta parole ce qui sort de ma bouche. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit ici, mais j'ai simplement un fardeau plus lourd et une responsabilité plus grande. Telle est la responsabilité de vous tous qui devenez prédicateurs de l'Évangile, vous tous que Dieu appelle au ministère, vous tous qui allez vous lever un jour et vous présenter devant les foules pour parler. Vous êtes souvent anxieux de vous tenir devant la foule et de parler. Non, non, soyez plutôt tremblants et dites au Seigneur, viens à mon secours, car donner ta pensée, c'est une lourde responsabilité. Parlez, non pour plaire aux hommes, mais parlez pour plaire à Dieu et afin de choquer et de secouer la conscience des hommes. Pour que réfléchissant, pensant, réfléchissant, ils changent de vie et de direction. N'affaiblissons pas la parole de Dieu, mais en même temps, en la prêchant dans toute sa vérité, attention de ne pas l'annoncer comme une loi rigide. Et là, il y a un équilibre. Il y a celui qui l'affaiblit et il y a celui qui va trop de l'autre côté et qui présente la parole de Dieu comme une loi et en use comme un fouet à la figure des autres. Que Dieu nous donne l'équilibre. Frères et sœurs, l'esprit dans la lettre fait vivre. La lettre sert de support à l'esprit. Lorsque nous prenons la lettre, nous allons utiliser la lettre. Nous allons utiliser ce qui est écrit comme un fouet. La Bible dit que est flaque à la figure. Non, il faut l'équilibre. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre est le support de l'esprit. Dans la lettre, vous devez y découvrir l'esprit. Et c'est l'esprit de la lettre que vous devez annoncer. Quand il est dit « Tu ne tueras pas », tu ne commettras point de meurtre. Cela ne veut pas dire seulement tu ne commettras pas de meurtre. Considérer ce commandement seulement sous cet aspect fait de nous des violateurs sans le vouloir. Si nous disons que ne pas commettre de meurtre, ça s'arrête là, eh bien nous allons être des violateurs de cette même loi, sans verser le sang. Jésus explique que ce n'est pas seulement de verser le sang qui compte. Mais c'est aussi la colère injustifiée. La colère qu'on manifeste contre un frère ou contre une sœur. Les paroles mauvaises que l'on répand autour de soi contre celui-ci ou contre celui-là. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Voilà ce que Jésus dit. Autrement dit, n'écoutez pas les pharisiens et les scribes qui vous disent que vous n'êtes pas en danger pour autant que vous ne commettez pas de meurtre. Il n'y a pas que les meurtriers qui sont en danger. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais tué avec un couteau ou n'importe quoi, en versant le sang, mais qui sont tout aussi meurtriers que les autres. Nous ne devrions également pas avoir des expressions méchantes. Vous savez, ces expressions que l'on emploie trop souvent envers ces gens que l'on n'aime pas. Et passez-moi le terme. Combien de fois on parle d'imbécile? Combien de fois on parle de fou? Combien de fois on parle de joba? Ou des mots semblables de mépris vis-à-vis de l'autre. De mépris. Jésus dit que celui qui utilisera ces termes est coupable. Et il le dit en parallèle avec tu ne tueras point. Ah, tuer son prochain par la langue. Coupable. Jésus dit que celui qui utilisera ces mots est condamnable. Raca, il prend ce terme qui veut dire vaut rien. Muntun pamba. Aucune valeur. Ah, rien du tout. Frères et sœurs, celui qui vous le dit, vous l'écoutez, mais vous ne répondez pas. Voilà le malheur de beaucoup d'entre nous. Vous lui répondez, vous lui faites un sourire, et vous partez. Pas d'argumentation, pas de colère, pas de vengeance. Le Seigneur dit à moi la colère, à moi la rétribution. C'est moi qui rends à l'autre selon ses œuvres. Mais écoutez, quand vous répondez, s'il ne sait pas qui tu es, c'est que tu as un pauvre témoignage. S'il ne sait pas qui tu es, c'est que ton témoignage est tout à fait nul. Nul. Gardez votre dignité d'enfant de Dieu. On vous insulte. On dit des mauvaises choses, on vous appelle de tous les noms. Vous fermez la bouche et vous passez. Et vous ne cessez d'aimer celui-là et vous priez pour sa repentance. Voilà la méthode des hommes de Dieu. Voilà la méthode de ceux qui peuvent influencer la société. Voilà la méthode qui apaise. Voilà la méthode qui fait cesser les combats. Celui qui aime, celui qui supporte, est plus fort que celui qui détruit. Il est plus fort, et vous verrez qui va gagner. Cette façon de parler est tellement commune dans le monde d'aujourd'hui, qui nous entoure. Mais Jésus dit que de faire cela est terrible. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées et les meurtres. Moi, quand j'étais petit avec ma sœur et qu'on se bagarrait l'un l'autre, je disais, t'es méchante. Elle me disait, tu es méchant. Papa et maman, eh bien, ils nous corrigeaient chaque fois. Non, tu dis pas ça. La Bible dit que les méchants, ce sont ceux qui sont loin de Dieu. Tu ne peux pas appeler ton frère méchant. Tu ne peux pas appeler ta sœur méchant. C'est un langage qui doit être banni de votre bouche, enfant de Dieu. Nous ressemblons aux pharisiens de la façon dont nous parlons et pensons et jugeons les meurtres, les vols, les débauches, les ivrogneries. Et nous regardons ces choses comme terribles. Et nous avons raison, elles sont terribles. Mais les mots de notre bouche sont tout autant terribles. Nous ne sommes pas ivrognes, nous ne sommes pas adultères, nous ne sommes pas criminels, nous sommes corrects, oui, c'est vrai. Et nous pensons que c'est bien. Mais nous ne nous gênons pas de dire à notre sœur, « Va-t'en, toi t'es méchant, je ne veux pas te voir. »« Oh, toi t'es un imbécile. Qu'est-ce que j'attends encore avec toi ?» Et d'autres paroles que je ne veux pas prononcer ici. L'attitude, notre attitude est celle du monde. Notre attitude est celle du meurtrier. C'est ce que Jésus dit. Les attitudes et le langage peuvent faire des guerres. Souvenez-vous de cela, mes amis. Le langage non maîtrisé, le langage qui attise le feu, peut créer des guerres et peut créer la mort de beaucoup d'innocents. Tout simplement par l'orgueil, à cause de l'orgueil d'un individu ou de plusieurs. La moquerie, la moquerie, laissez la moquerie. Les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux, est-il dit. La moquerie est une façon de tuer l'autre. La dérision, la colère envers nos semblables, qui peut conduire au meurtre. Nous avons là l'esprit du meurtre. Le meurtre ne vient pas comme cela à froid. Le meurtre vient d'abord de la pensée. La pensée qui dirige la main. Vous voyez? La pensée qui dirige la main. À moins que ce soit un possédé qui n'agit plus par lui-même, mais par un mauvais esprit qui habite en lui et qui est maîtrisé par cet esprit-là. Mais un homme sensé, lorsqu'il verse le sang, le meurtre est déjà commis dans son esprit avant qu'il soit exécuté par sa main. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres, car alors vous êtes des meurtriers. Heureusement que chaque colère ne conduit pas au meurtre, mais hélas, nous nous sommes souvent tués les uns les autres dans nos pensées et dans nos cœurs. Ah, nous pensons à celui-là, j'aimerais lui tordre le cou. Oh, en tout cas, celle-là, si je pouvais plus la voir, qu'elle soit au moins 6 pieds sous terre. Mais ça, c'est du meurtre. Expliquez-moi un peu. Un meurtre qui est déjà commis au niveau de la pensée, même s'il n'est pas exécuté. On détruit par la langue la réputation d'un homme honnête. On ébranle la confiance par la calomnie de quelqu'un qui est honnête et qui veut la vérité. On détruit sa personnalité, on détruit la confiance que les autres ont en lui. On cherche des fautes pour détruire cette personne. Tout ce qu'on peut trouver en elle, on va le chercher. Jésus a dit, tu ne tueras pas. Et si tu vois des faiblesses dans ton frère, essaye d'expliquer. Essaye de comprendre pourquoi. Et essaye de l'aider. Ce que tu considères comme une erreur n'est peut-être pas une erreur. Nous devons saisir le contenu de l'esprit de la loi. Le contenu spirituel de la loi. C'est là qu'Israël a failli. On peut détruire un homme sans verser de sang. Celui qui dira insensé ou fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà ce que dit Jésus. C'est-à-dire être jeté en enfer. La géhenne, c'était un endroit à près de Jérusalem, dans une vallée où on jetait tous les détritus de la ville. Et on brûlait ça. Il y avait un feu qui brûlait continuellement, parce qu'on jetait continuellement des détritus. C'était une décharge publique, si vous voulez. Eh bien, bien souvent, la punition éternelle par Jésus a été comparée à la géhenne, à ce feu qui détruit les immondices. Vous ne voulez pas être une immondice, mes frères. Vous allez être changés par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas destinés à être jetés sur le tas des immondices quelque part que Dieu a réservé pour ceux qui sont immondes. Le sang de Jésus est là pour vous purifier de tout péché. Nous étions tous des immondices. Nous étions tous bons qu'à être jetés sur la décharge de l'univers où le feu brûle sans s'arrêter. Mais Jésus est venu. Il nous a sauvés. Il nous a lavés. Il nous a recyclés. Il nous a recréés. C'est l'amertume, la haine, la rancune du cœur qui s'exprime dans le meurtre, dans leur meurtre de la langue, dans leur meurtre des actes, dans le meurtre des paroles. Est-ce que cela veut dire que la colère est toujours mal? Est-ce que cela veut dire que la colère est toujours défendue? Frères et sœurs, Jésus lui-même a parlé très fort aux pharisiens, aux scribes. Il leur a parlé très fort au docteur de la loi, il s'est fâché et s'est mis en colère, Jésus. Il les a appelés aveugles, il les a appelés hypocrites, ben dis donc. Et quand il dit aux disciples d'Emmaüs, dans Luc 24-25, quand il dit aux disciples d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire », dites donc, c'était quand même fort comme parole, sans intelligence. Vous êtes sans intelligence. Il parlait de l'intelligence spirituelle. Il parlait de la discernement des choses spirituelles et des choses de Dieu. Parce qu'ils étaient encore des hommes charnels et non pas des hommes spirituels. Et dans Matthieu 23, où il dit, tout ce chapitre, malheur à vous pharisiens et scribes, malheur à vous docteurs de la loi, malheur à vous. Et quand il prit le fouet, attention, Jésus a pris le fouet, hein. Il a pris le fouet quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu ses trafiquants dans la maison de Dieu. Il ne veut pas qu'on fasse du trafic dans sa maison. Un point final. Pas de trafic. pas de commerce dans la maison de Dieu. Et comme ces gens faisaient plein de trafic avec leurs bœufs, leurs moutons, leur échange d'argent et tout ce que vous voulez. Il a pris la colère, oui, une sainte colère. Il a renversé les tables. Il a pris le fouet et balancé son fouet à gauche et à droite. Jésus, celui qui est doux de cœur et humble. Jésus parla de la sorte. Jésus agit de la sorte comme ayant autorité. Il prononce un jugement final contre les pharisiens. Il le fait en tant que Messie, car ils ont rejeté l'Évangile qui leur est offert gratuitement par leur Messie. Il parle toujours de la sorte contre les fausses religions et l'hypocrisie. Vous verrez toujours que Jésus a été beaucoup plus dur avec les religieux qu'avec les païens. Avec les religieux, il a eu des paroles fortes. Avec le religieux, il a pris le fouet. Avec le religieux, il les a dénoncés hypocrites publiquement. Mais avec les païens, il était plein de miséricorde envers les centurions romains, envers ces hommes qui ne connaissaient rien du tout et qui n'avaient même pas une base quelconque quant à la foi. Il a eu compassion de Dieu. Et mes frères, Dieu a compassion des hommes de ce pays qui ne connaissent pas. Mais attention, 90% de notre pays dit être chrétien, donc il prétend savoir. Alors, quelle est notre position devant Dieu? Disons-nous que nous savons sans savoir, par orgueil, ou sommes-nous véritablement instruits, mais nous méprisons sa parole? Que Dieu nous secoure. Notre colère ne doit pas être contre le pécheur, mais notre colère doit être contre le péché. Quant au pécheur, nous devons être tristes pour lui, nous devons l'aimer, nous devons l'amener à Christ, nous devons avoir compassion pour lui parce que nous étions comme lui. Nous ne haïssons aucun pécheur, mais nous haïssons son péché. Et nous sommes en colère contre son péché. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, nous dit le psaume 97, verset 10. Nous devrions avoir de la colère à la vue du péché, à la vue de l'hypocrisie, de la colère pour l'injustice et de tout ce qui est mal. Et c'est ce que Paul veut dire. Nous devons avoir de la colère pour tout ce qui est vérité changée et qui est devenu mensonge. De la colère pour tout ce que les hommes font et qui est injuste, que ce soit à cause de leurs lois ou que ce soit à cause de leurs agissements. La colère du Seigneur était toujours une juste indignation, une sainte colère. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Et toute injustice, et toute injustice des hommes. Nous avons des lois, mais nous n'obéissons même pas à nos lois. Et elle est pour certains, elle n'est pas pour tous. Notre Dieu est contre le péché. Il est comme un feu dévorant. Plus nous serons saints, plus nous aurons de la colère contre le péché. Mais nous aimerons d'autant plus le pécheur. Nous devons faire la distinction entre la personne est ce qu'elle fait. Pas de mépris ou de rejet de notre part. Vous vous mettez dans une grande colère quand quelqu'un vous fait du mal. Vous vous mettez en colère quand quelqu'un ne fait même rien contre vous, mais vous supposez. Alors vous péchez. Si quelqu'un vous fait du mal, ne soyez pas en colère. Bénissez-le. C'est de cela dont Jésus parle quand il dit « Tu ne tueras point ». Dieu regarde au cœur et il ne regarde pas seulement les actions extérieures. Il regarde les actions intérieures. Tu peux tuer dans ton cœur, tu peux maudire dans ton cœur, tu peux mentir dans ton cœur, tu peux te persuader quelque chose qui est faux dans ton cœur. C'est pour cela qu'après cela, Jésus dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Ton offrande ne sera pas acceptable tant que toi, tu ne te seras pas mis en accord et en harmonie avec ton frère. Déclaration importante. Tu veux apporter ton offrande, tu veux faire du bien, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu dit, c'est bien, d'accord que tu la fasses, mais tu sais que dans ton cœur, tu as quelque chose contre ton frère. Ne lui as-tu pas parlé de telle façon? N'as-tu pas écrit de telles mauvaises lettres à son sujet? N'as-tu pas tordu la loi et les commandements à son sujet dans tel domaine? N'as-tu pas abusé de sa naïveté? N'as-tu pas abusé de sa foi en toi pour profiter de lui et lui en tirer quelque chose? N'as-tu pas fait toutes ces choses-là? Ne sais-tu pas que tel frère est contre toi à cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as fait? Tu l'as pas fait en connaissance de cause, mais quant à lui, il était blessé. Alors, avant d'apporter ton offrande, avant d'apporter ta prière que je veux agréer, avant tout le culte que tu veux me rendre, je te dis maintenant, va tout de suite chez ton frère, va tout de suite chez ta sœur et réconcilie-toi. Expliquez-vous l'un l'autre. Dites ce qui s'est passé et que chacun soit ouvert. Si l'un n'est pas ouvert et te rejette quand même, peu importe, avec calme, avec douceur, tu dégages ton cœur, tu le bénis et tu viens présenter ta offrande et je l'accepterai. Frères et sœurs, finis ces animosités, finis ces colères contre les frères, finis ces calomnies et ces paroles acides, finis ces paroles qui détruisent l'autre, finis ces suspicions. Oh, vous savez, même ici dans l'Église, combien de suspicions ne voyons-nous pas de temps à autre de ceux qui disent « Oh, vous savez, tel et tel, il vole. Oh, tel et tel, il profite. Oh, tel autre, il prend ce qui ne lui appartient pas. Tel autre met la main dans la caisse. » Nous entendons ces bruits-là. Tant que vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas le droit de parler de la sorte. Je n'accepte pas une calomnie, une médisance sur un frère ou une sœur, à moins qu'on apporte une preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, eh bien, pour moi, il n'est pas coupable. S'il y a manque de sagesse, c'est possible. S'il y a manque de sagesse et qu'à cause de cela, il y ait des suppositions, c'est possible. Remédions à la chose. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, aimons les frères et croyons dans les frères. Car c'est ainsi que l'amour est manifesté. Autrement, tu tues ton frère. Frères et sœurs, passons. Arrêtons de jeter du poison sur qui que ce soit. Et s'il y a une correction à faire, elle sera faite. Si manque de sagesse il y a, la sagesse reviendra par l'exhortation. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher dans l'amour les uns avec les autres et dans l'harmonie. Voilà ce que Dieu veut. Ne tue pas ton frère. Baissons la tête. Seigneur, nous réalisons les responsabilités qui sont les nôtres. Nous avons de grandes responsabilités en tant qu'enfants de Dieu et en tant que proclamateurs de la vérité. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin aussi que tu nous aides à ne pas tuer. Bien, nous n'avons pas tué par le sang. Nous n'avons pas tué, Seigneur, en versant le sang de façon quelconque. Mais Seigneur, dans nos cœurs, trop souvent, il y a eu cette haine, il y a eu cette animosité, il y a eu cette moquerie, il y a eu ces paroles acides et empoisonnées. Seigneur, il y a eu ces suppositions et tout cela devant tes yeux, c'est tuer son frère, c'est tuer sa réputation, c'est tuer, Seigneur, sa marche spirituelle, c'est tuer l'amour. Seigneur, pardonne. As-tu tué de cette façon par la langue? As-tu tué par l'attitude? As-tu tué par les paroles acides et méchantes? As-tu tué par des paroles et des suppositions qui était mauvaise, as-tu jeté sur ton frère le discrédit, sur ta sœur le discrédit? Si tel est le cas et que tu veuilles te repentir ce matin, lève-toi où tu es. N'attends pas mon frère, Jésus a dit, et c'est un commandement, tu ne tueras point. Et combien de fois nos bouches ont été des épées, nos bouches ont été des mitrailleuses, nos bouches ont été des bombes atomiques, et nous avons détruit, si ce n'est pas notre famille, c'est la famille des autres, c'est la réputation des autres, c'est la marche des autres, et nous avons parlé en langage qui déplaît à Dieu. Repentez-vous afin que la bénédiction revienne encore sur vous, sur vos familles, que votre langage dans votre bouche soit un langage de douceur, de support, d'amour, d'endurance. Frères et sœurs, et lorsqu'on vous insultera, à partir de maintenant, vous fermerez votre bouche et vous répondrez par des paroles douces, par des paroles de bénédiction, ou alors vous ne répondez pas, mais vous poursuivez votre route en priant pour cette personne dans votre cœur. Ça, c'est la marche de l'enfant de Dieu. Ça, c'est la marche de celui qui s'en va vers la victoire. Pardonnez, aidez, lavez votre bouche dans le sang de Golgotha. Nous ne sommes pas destinés à la poubelle de la gêne. Nous sommes destinés au royaume des cieux. Seigneur, tu vois tes enfants, nombreux ils sont, qui se lèvent ici à cette heure. Les paroles ont touché leur cœur, Seigneur, et ils reconnaissent que d'une façon ou d'une autre, leur bouche n'a pas été ce qu'il fallait. La pensée de leur cœur n'ont pas été, Seigneur, ce qu'il fallait. Et ces pensées ont été des pensées de colère injustifiées. Et cette colère, ils l'ont manifestée par des paroles acides, par des paroles empoisonnées, par des paroles qui blessent l'autre. Seigneur, pardonne, s'il te plaît, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus, lorsque nous nous dépassons nous-mêmes et que la colère nous prend. Pardonne, Seigneur, lorsque nous maudissons au lieu de bénir. Pardonne, Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, relève-nous et que nous soyons le genre de peuple et d'enfant de Dieu que tu désires que nous soyons. Le caractère souvent nous domine, et ce caractère n'est pas maîtrisé, Seigneur. Mais Seigneur, brise notre caractère. Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur, à te représenter dans ce monde. Lave nos bouches et lave nos cœurs par le sang de Jésus. Reprenez vos places. Nous voulons mettre devant toi ces offrandes maintenant et ces dîmes. Seigneur, s'il te plaît, bénis ces dîmes et bénis ces offrandes. Bénis-les, Seigneur Jésus, que soit l'expression de cœur reconnaissant et de bouches qui sont lavées et purifiées et de mains qui sont lavées et purifiées. Seigneur, que ces offrandes te soient agréables. Seigneur, agrée ces offrandes, je t'en prie, et bénis-les. Et bénis ceux qui donnent au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.